You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Les grands titres de ce dimanche, la Nouvelle-Zélande se prépare à enterrer les morts après le massacre de vendredi dernier dans deux mosquées de Christchurch. Plusieurs arrestations en France après l'acte 18 des Gilets jaunes hier. Les Algériens disent toujours non à la dernière offre du président Bouteflika. Le bilan de personnes tuées en Nouvelle-Zélande après l'attaque contre les deux mosquées s'élève à 50. C'est un bilan provisoire. Mike Bush, le commissaire de police en Nouvelle-Zélande, déclare que 36 personnes ont été admises à l'hôpital et deux sont dans un état critique. Une liste officielle des victimes n'a pas encore été publiée, selon lui.
Now that list was compiled as a result of work done with victims and with senior religious leaders. And was done to give some certainty to victims' families. This is not a formal list, and we will be unable to share exact details of victims until they have been formally identified.
Mike Bush, le commissaire de police en Nouvelle-Zélande. On passe maintenant au reportage de Karine Houghton, l'envoyée spéciale de Radio France Internationale en Nouvelle-Zélande.
Assis sur son skateboard, en face des milliers de bouquets qui ont été apportés depuis ce matin à quelques mètres de l'hôpital, Joshua a 25 ans et le regard embué. Il n'en revient toujours pas de ce qui est arrivé à sa petite ville tranquille de Christchurch.
Je suis venu m'asseoir ici pour ressentir la tristesse de tout le monde. Je veux juste montrer mon respect à ces innocents qui sont morts sans avoir rien fait de mal. Je pensais qu'on était en sécurité, mais nous ne sommes plus en sécurité nulle part, n'est-ce pas ?
But we're not safe anywhere, are we?
Linda, elle, est venue avec ses deux petites filles, Sophia et Kinka, chacune un bouquet dans la main. Elles sont sorties dès que la police a jugé la situation hors de danger.
Je tenais à emmener les filles pour leur montrer que c'est comme ça qu'on répond aux actes terroristes, avec de l'amour et de la compassion. Toute la nation est en deuil et le monde va rester en deuil pendant plusieurs semaines.
Face aux grilles du jardin botanique, les enfants décident à la craie des messages positifs et d'unité. Pas question que ces massacres ébranlent les valeurs néo-zélandaises.
Les résidents de Grafton, en Nouvelle-Galles du Sud, sont sous le choc. C'est la ville d'origine de l'auteur présumé de l'attaque terroriste à Christchurch. Brenton Tarrant est originaire de cette ville dans la région des Northern Rivers, à 640 km au nord de Sydney. Il aurait travaillé comme entraîneur personnel. Un habitant de la ville a déclaré à SBS que les proches de la famille avaient du mal à comprendre ce qui s'était passé.
I've been talking to several of my mates at the pub and what have you, and they know the family and knew the family and can't believe it really.
Voilà, un résident de Grafton. Une porte-parole des Nations Unies a condamné le massacre à Christchurch. Michelle Bachelet, haut-commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies, estime que ces attaques sont un autre appel du pouvoir fatal du fanatisme.
The murderous Islamophobic and terrorist attack on two mosques in New Zealand is yet another terrible reminder that racism kills. Now and on March 21, International Day for the Elimination of Racial Discrimination, we renew our promise to the world's people that we stand with the victims in their grief, in their demand for justice, and that we will struggle every day of every year against all forms of racism.
En Australie, le gouvernement fédéral interdira le controversé commentateur de droite Milo Yiannopoulos de venir en Australie après les attaques terroristes de Christchurch. Il avait été interdit à l'origine de revenir dans le pays, mais il y a une semaine, le gouvernement a changé sa décision pour lui permettre de revenir en Australie après la pression exercée par des députés conservateurs. Milo Yiannopoulos a toutefois décrit l'islam comme, je cite, une culture religieuse étrangère et barbare sur les médias sociaux après les attentats de Christchurch. Le ministre de l'immigration David Coleman a déclaré que les commentaires étaient déplorables. Décision historique cette semaine par la Haute Cour d'Australie. Les aborigènes spoliés de leurs terres devront être indemnisés pour la perte culturelle et la souffrance spirituelle endurée. Explication de Yelena Tomic pour Radio France Internationale.
Les peuples Ngali Wuru et Nungali de Timber Creek, une région reculée située à 600 km au sud-ouest de Darwin, dans le territoire du Nord, auront désormais le droit d'être indemnisés après avoir été privés de leurs terres ancestrales par le gouvernement régional. C'est ce qu'a décidé la Haute Cour d'Australie. Ces populations indigènes se sont vues dépossédées de leurs terres sur lesquelles le gouvernement régional avait construit des infrastructures publiques. Ce jugement est historique car la Cour a estimé que les aborigènes devaient être indemnisés non seulement pour la valeur économique des terres perdues, mais aussi et surtout pour la perte culturelle. Le tribunal a en effet évalué la relation spirituelle que ces populations autochtones entretenaient avec leurs terres et la souffrance spirituelle qu'ils ont subie par la rupture de ce lien. Plus de 800 000 euros d'indemnisation seront reversés individuellement en fonction des détenteurs de droits fonciers et de leur lien avec la terre ou les eaux. Cette décision de justice pourrait donc ouvrir la voie à des dizaines de milliers de demandes d'indemnisation qui pourrait atteindre, selon certains spécialistes, plusieurs milliards d'euros.
L'acte 18 des Gilets jaunes, avec des actes violents et de pillage à Paris, des magasins ont été pillés sur les Champs-Élysées. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dénoncé, je cite, les professionnels de la casse qui ont infiltré, je cite, les Gilets jaunes.
On voit bien que les ultra-violents sont là, mais répondent aussi à l'appel de la violence de certains leaders des Gilets jaunes qui, effectivement, n'ont pas d'autre mot d'ordre aujourd'hui que de celui de, par la violence, voir survivre ce mouvement qui ne survit aujourd'hui plus qu'à lui-même. Il n'existe plus dans la réalité quotidienne. C'est moins de 200 personnes qui se mobilisent chaque jour en France. Et par contre, ce sont des rendez-vous. Et là, ils ont décidé, peut-être comme le chant du cygne, de venir pour attaquer, et je reprends leurs mots, Paris. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai donné dès ce matin des instructions d'une très grande fermeté au préfet de police pour que nous ne laissions rien passer. Aucune attaque contre nos forces, contre les commerces, contre nos institutions, contre Paris n'est acceptable aujourd'hui.
Il n'était que 32 300 personnes à manifester dans le pays, selon le ministère de l'Intérieur. Et maintenant, le reportage de Olivier Roger, qui était à Paris pour Radio France Internationale.
Toute la journée, ils ont saccagé les Champs-Élysées, 1500 casseurs, des ultras de gauche et de droite infiltrés parmi les gilets jaunes, rassemblés sur la plus célèbre avenue française. Ils ont attaqué les forces de l'ordre, massées autour de l'Arc de Triomphe, et qui ont subi pendant plusieurs heures des attaques à coups de pavés et de projectiles divers. Puis, ils sont descendus sur l'avenue, s'en prenant aux vitrines symboles de l'opulence et du capitalisme. Banques, bijouteries, restaurants de luxe, toutes les enseignes les plus célèbres ont été pillées. Hugo Boss, Longchamp, Zara, Lacoste, Swarovski ou encore Nespresso et même la boutique du PSG. Le Fouquet's, la célèbre brasserie de luxe, a été vandalisée et son auvent partiellement incendié. Avenue Roosevelt en a frôlé la catastrophe alors qu'une banque était la proie des flammes. Les pompiers ont sauvé in extremis une mère et son bébé. Ces scènes ont duré jusqu'à 18 heures. Dans l'après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu sur place dénonçant les casseurs, affirmant que ceux qui excusent et encouragent ces actes s'en rendent complices. Une violence qui a focalisé l'attention générale, alors qu'à quelques kilomètres de là, 45 000 personnes, selon un comptage indépendant, ont défilé pour le climat sans le moindre problème.
Manifestation aussi pour le climat, donc, et une justice sociale à Paris. La marche du siècle aurait rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes dans toute la France. Elles étaient 45 000 à Paris, 100 000 selon les organisateurs. Reportage Lucie Bouteloup pour RFI.
Claire a 65 ans. Ça fait déjà longtemps qu'elle défile dans les rues pour alerter les différents gouvernements. Les effets du dérèglement climatique, elle les constate tous les jours.
Ça se sent dans l'air qu'on respire, dans tous les morts qui disparaissent tous les ans, 450 000 en France avec la pollution. Et puis le réchauffement climatique, c'est aussi le niveau des mers qui monte, la biodiversité qui s'effondre, et nous avec des paroles mais pas d'actes, alors que M. Macron dit qu'il faut passer à l'action, mais on se demande ce qu'il attend.
Même son de cloche pour Philippe, membre du CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Pour lui, tout le monde doit rester mobilisé.
Il faut se dépêcher, il faut mettre des sous, il faut agir. Depuis la COP21, ça fait 4 ans, on n'a rien fait. Les émissions sont toujours les mêmes, il faut absolument bouger. Et il n'y a pas une conscience politique qui est là. Donc il faut que la société civile, que les ONG, que les étudiants, que les lycéens, eh bien, ils se manifestent parce que c'est leur futur qui est en jeu.
Un message que la petite Rita, 4 ans et demi, semble avoir entendu.
Il faut sauver la planète. Il ne faut pas jeter le plastique par terre.
Et 1, et 2, et 3, 2, 3.
Toujours en France, le Conseil national du Parti socialiste a désigné hier l'essayiste Raphaël Glucksmann comme tête de liste pour les européennes. Explication de Julien Chavannes pour RFI.
Olivier Faure devait se justifier, expliquer pourquoi il préfère laisser la place à un philosophe peu connu du grand public. La gauche n'avait pas le choix, selon le patron du PS.
Raphaël Glucksmann, il n'est pas socialiste, c'est exact. Mais le rassemblement, chers camarades, c'est toujours commencer par accepter cette idée simple que les différences nous enrichissent.
Se justifier mais aussi rassurer sur l'avenir du PS, car pour la première fois, le Parti Socialiste ne sera pas représenté par un candidat issu de ses rangs.
Non, ce n'est pas un effacement. Aurions-nous si peu confiance dans ce que nous sommes pour craindre la dilution dans un mouvement né il y a 4 mois et issu la société civile.
Si la stratégie d'Olivier Faure est largement validée par le Conseil national du PS, une trentaine de membres se sont abstenus et 5 ont voté contre, comme le sénateur Rachid Temal, pas convaincu.
Sur cette liste-là, ce stade, sauf faire ma part, il n'y a pas de partenaire. Il n'y a pas les écologistes, il n'y a pas Génération, il n'y a pas le PC. Donc moi, je ne sais pas ce qu'est cette option, dont aujourd'hui, au moment où je vous parle, n'est pas réelle.
En se rangeant derrière une personnalité extérieure aux appareils politiques, Olivier Faure espère donner envie aux écologistes et à Benoît Hamon de le rejoindre. Sa porte restera ouverte jusqu'au 6 mai.
En Afrique francophone, en République démocratique du Congo, les militants de l'UDPS, le parti du président Tshisekedi, sont en colère après le raz-de-marée du FCC, le Front commun pour le Congo, le parti de Joseph Kabila. Aux élections sénatoriales et dans la capitale, aucun sénateur de l'UDPS a été élu. Reportage de Kamanda Wakamanda Muzambe pour RFI.
Première cible des combattants dans la capitale, le siège de l'UDPS sur la 11e rue à Limété. L'édifice a été endommagé par une foule en furie qui s'est ensuite ébranlée vers d'autres quartiers. Et sur le parcours, les manifestants ont saccagé un bureau du PPRD, le parti de Joseph Kabila à Matongé. Ici, l'effigie de l'ex-président a été détruite. Des pneus ont été brûlés sur la chaussée devant le palais du peuple, siège du Parlement. Nous exigeons la démission de Jean-Marc Kabound de la tête du parti, a déclaré un manifestant. Selon lui, le président intérimaire de l'UDPS est responsable de la débâcle du parti au sénatorial. Il crie à la trahison. Pour les manifestants, les députés provinciaux de l'UDPS ont été corrompus. Dans la foule en colère, des slogans anti-Kabila pour la première fois depuis l'annonce des résultats. Kabila, Oyebela, le peuple est vigilant. Les militants de l'UDPS ont ensuite tenté de se diriger vers la résidence provisoire et le bureau du président Félix Tshisekedi. Ils ont été bloqués par les forces de l'ordre.
Les Algériens disent toujours non à la dernière offre du président Bouteflika qui a reporté l'élection présidentielle et prolongé son mandat sine die. Pour la sociologue algérienne Fatma Oussedik, les autorités sont dépassées et tentent de gagner du temps.
Le système n'a pas pris la mesure des limites auxquelles est parvenue la population. C'est-à-dire que plus elle ira dans le pourrissement, plus effectivement elle risque de nous conduire à des situations pas très contrôlables, mais dont elle sera coupable au premier rang, parce qu'à l'évidence, le pouvoir ne veut pas prendre acte du fait que la population n'en peut plus et qu'elle remet en cause très profondément ce système, non seulement dans ses violations politiques, mais aussi dans sa gestion économique, ensuite dans son caractère post-colonial, il faut le dire, parce que cette attitude d'attendre le Titus de Paris est absolument insoutenable pour les Algériens.
Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie, Perth maximal de 33 degrés, Adélaïde 30, Melbourne 27, Hobart 23, Canberra 22, Sydney 23, Brisbane 28, Cairns 31, Darwin 33 et à Alice Springs maximal de 36 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche, la Nouvelle-Zélande se prépare à enterrer les morts après le massacre de vendredi dernier dans deux mosquées de Christchurch. Plusieurs arrestations en France après l'acte 18 des Gilets jaunes hier. Les Algériens disent toujours non à la dernière offre du président Bouteflika. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.